Nous vous saluons à tous fraternellement la bienvenue. Je voudrais aussi tout de suite demander, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un sera là pour la première fois? Alors, levez rapidement les mains. Avons-nous quelqu'un qui serait là pour la première fois aujourd'hui? Merci. Soyez la bienvenue. Encore quelqu'un. Soyez les bienvenus. Tous les autres sont déjà des amis, des vieux amis. Oui. Oui, le frère Graff l'a déjà annoncé. Réunion de la fin de l'année. La dernière réunion ici à Zurich. Le psaume 65 au verset 12 est écrit. Psaume 65 au verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens. Nous regardons à beaucoup d'années en arrière que Dieu nous a accordé et a couronné de sa grâce et de sa bonté. Quand je pense particulièrement, je regarde à 50 années en arrière et à chaque fois Dieu a couronné de bien et de grâce et de miséricorde et de bonté et de bénédiction. Et nous avons aussi cette année de bons témoignages, tous les voyages qui ont été entrepris. J'avais voulu en fait les avoir comptés, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais seulement quand on considère les voyages de l'Afrique, j'ai pu visiter cette année 11 pays. Ensuite, suivre tous les autres pays, jusqu'aux extrémités de l'Est jusqu'en Australie. Ça a été des voyages et encore des voyages pour apporter la précieuse parole de Dieu et ensemencer la semence précieuse de la parole de Dieu. Je crois que tous nous regardons à une année en arrière qui nous a apporté de la bénédiction et aussi peut-être parfois des épreuves, de la tribulation. Personne peut choisir comment est-ce que sa vie doit se dérouler et ce qui doit lui arriver ou pas lui arriver. Je donne un exemple. Demain, nous allons avoir un ensevelissement, un enterrement au sud de l'Allemagne, pas loin de Geislingen. Un jeune frère qui avait des problèmes et on lui a prescrit quelques médicaments. Et voilà, je crois que c'était lundi. Il a simplement pris trop de médicaments et il ne s'est plus relevé. Avec 17 ans, ce n'est pas encore un âge. Mais parfois, il y a des choses qui arrivent que nous ne pouvons pas comprendre, Et malgré tout, nous avons la certitude que ce jeune frère, Tobias, en tant qu'enfant de Dieu le Seigneur, a été consacré à Dieu le Seigneur. Et depuis, je l'ai dit que je le dis presque toujours. Quand je prie pour les enfants, sois consacré à Dieu pour ce temps et pour l'éternité, sans considérer ce qui arrive ou ce qui se passe. Sois consacré à Dieu pour ce temps et pour l'éternité. Ça, nous le disons à chaque présentation d'enfants. Et comme déjà cela a été dit, nous regardons à une année en arrière qui nous ont signifié des jour de bénédiction, mais aussi de tribulation. Mais malgré tout, nous savons que tout a servi à notre bien et que le Seigneur est sur son trône et que sa volonté, par sa grâce, est faite. Et la chorale nous a chanté le psaume 90. Ô Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Ensuite, cette expression merveilleuse, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous pensons aussi que avant même la fondation du monde, avant que la terre et le monde furent créés et que les montagnes soient nées, nous avons été prédestinés à la vie éternelle, élus à l'éternité par la grâce de Dieu. Et cela d'éternité en éternité, tu es Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, résumons cela rapidement. Je regarde encore ces 50 ans passés et aussi à cette année qui maintenant va à sa fin. Dieu a vraiment couronné de bonté cette année et cette couronne pour moi était aussi maintenant lors du voyage au Brésil. Nous avons pu voir le frère Helmut Miskis devrait simplement nous dire quelques paroles. Viens s'il te plaît devant. Ici un jeune homme dans la maison duquel dans la maison de ses parents en 1979 il y a eu à São Paulo les premières réunions et la semence a été semée, le message a été apporté dans ce grand pays de l'Amérique du Sud et aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 frères et sœurs qui sont dans le message et qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ramené quelques photos de ces trois dernières réunions, plus de 2 300 personnes dans chaque réunion étaient rassemblées. Et la chose merveilleuse était que nous avons pu être diffusés dans tout le pays. Et notre frère était mon traducteur. Dis-nous quelques mots, frère Helmut Miskis. Oui, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'était un très grand privilège d'être aux côtés de mon frère et de voir comment est-ce que le Seigneur a touché les cœurs, a ouvert les portes et comment est-ce que la parole a été reçue avec une grande attente et joie. Et réellement, il y a eu beaucoup qui étaient rassemblés, plus de 320 prédicateurs de tout le pays étaient rassemblés et les églises là-bas, dans leur locaux ont pu suivre en direct par l'Internet la réunion et ils ont pu entendre ce que Dieu fait dans leur jour. Il y avait aussi d'autres réunions qui étaient rassemblées et ils ont aussi en même temps en direct écouté la parole et la réception était puissante et nous verrons dans l'éternité les fruits de ces réunions. Ce sont nos frères dans le Seigneur qui croient la même parole que nous croyons aujourd'hui. Et nous devons remercier Dieu de ce qu'ils ont trouvé aussi l'équilibre et qu'ils n'ont pas de penchant dans quelque chose et qu'ils n'ont pas glissé dans des interprétations, mais qu'ils sont restés persévérants dans la parole originale. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons expérimenter, notre préparation et le retour de notre Seigneur ensemble avec eux. Je voudrais aussi vous remercier pour vos prières qui nous ont accompagnés et qui nous ont soutenus pendant ces voyages. Le Seigneur a répondu au-dessus de toute attente et a béni de manière merveilleuse. Mon cœur déborde de joie et de reconnaissance de ce que c'est encore le temps de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, merci. Oui. Oui, c'est comme ça que le Seigneur utilise des frères dans différentes langues. Quand on pense, le papa né au Memel, tout en haut, au haut de la Prusse du Nord, et notre frère est né à São Paulo, en Amérique du Sud. Et depuis 72, notre frère est venu à Krefeld et il a été béni visiblement. Et je voudrais l'exprimer ici. Ce que frère Barillier signe dans le royaume de Dieu a fait pour le message de la fin des temps, notre frère Helmut Miskis l'a fait dans la langue portugaise comme ustensile de Dieu. Les chemins de notre Seigneur sont merveilleuses. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails, mais cela m'a vraiment... C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant, qu'un frère qui, en tant que frère conducteur pour tout un pays, est considéré là-bas comme conducteur de tout un pays, nous invite dans son bureau et nous avions prié seulement quelques personnes ensemble et subitement, pendant qu'on priait, il vint à moi, il prit ma main et a mis ma main sur la tête de son fils et il m'a dit, bénis mon fils. Et quand cela eut lieu, j'ai ôté ma main après la prière. Il a repris encore ma main et il a mis sur la tête de sa femme et il a dit, bénis ma femme. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous avons expérimenté et vu pendant ces jours, en action directe de Dieu, a été unique dans toutes ces années. Aussi, nos frères là-bas ont suivi parfois une réunion, une direction et encore une autre. Mais voilà que Dieu a accordé sa grâce et beaucoup de questions furent répondues. Des questions qui étaient des problèmes pour les frères et Dieu a accordé un réveil par sa grâce et a accordé le respect, a restitué le respect pour sa parole dans le cœur. C'est ainsi que quand le respect revient, c'est ainsi que la révélation aussi revient pour la parole originale devant laquelle on a du respect. Bien aimés frères et sœurs, on pourrait encore dire beaucoup de choses, mais nous voulons revenir à ce verset du psaume 64, verset 12. Tu as couronné l'année de ta bonté, de tes biens. Nous avons aussi la possibilité, aussi de Zurich ou bien alors de Krefeld, nous avons la possibilité de suivre en direct les réunions et pour ainsi dans 12 langues les plus parlées dans le monde, atteindre le monde de le peuple de Dieu dans le monde, pour que l'Église épouse, maintenant à la fin du temps de la grâce, marche et revienne à marcher dans le même pas, pour qu'elle puisse être une épouse parole. Quand nous pensons aussi à ce que nous avons entendu dans la parole d'introduction, la chose principale, c'est que nous soyons prêts. Et ensuite, on doit considérer et lire Matthieu 25 pour savoir qui sera prêt et pour savoir ce qui est nécessaire à notre préparation. Matthieu 25 nous montre exactement, nous donne exactement la réponse et ensuite aussi suit la révélation. Apocalypse chapitre 19, verset 7, où il est dit que son épouse s'est préparée. Aujourd'hui, j'ai amené avec moi une prédication de frère Branham, très courte, que j'ai choisie, qui va nous montrer le noyau de la rédemption, du salut. Frère Branham a beaucoup enseigné aussi dans ses prédications, aussi en ce qui concerne la parole prophétique. Il a enseigné là-dessus, mais ça, c'est une prédication qui touche le centre, le noyau, et qui nous montre dans sa profondeur la signification du salut, de la rédemption, et pour nous montrer qu'aucun homme aurait pu faire quelque chose pour se sauver, pour recevoir son salut, mais que c'est vraiment Dieu qui en tout a accompli tout ce qui était nécessaire et que nous avons seulement besoin de l'accepter. Je sais que le frère Branham ici mentionne deux événements, c'est-à-dire la crucifixion, Golgotha, et ensuite aussi la préparation que nous pouvons expérimenter dans la grâce de Dieu. Il nous est montré, c'est-à-dire comment est-ce que toujours de nouveau nous avons insisté que la vie est dans le sang. Et ici, frère Branham, très brièvement, montre que la vie de Dieu, qui était dans le sang de l'agneau de Dieu, revient sur tous ceux qui ont été rachetés par le sang, et cela par le baptême du Saint-Esprit. Mais écoutons, c'est seulement peut-être 30 minutes que nous allons aujourd'hui utiliser. Écoutons cette prédication que frère Branham ici a prêchée. Nous voulons prier. Seigneur, bénis ta parole et la vérité, et nous sommes reconnaissants pour des hommes qui sans crainte porte ta parole et la prêche. Et pendant que nous ouvrons la Bible, que le Saint-Esprit puisse venir et nous ouvrir l'intelligence, la compréhension, nous te le demandons dans le saint nom de Jésus. Amen. Ce grand jour dans lequel nous nous en rappelons, c'est-à-dire le jour de la crucifixion de notre Seigneur bien-aimé. Je voudrais aujourd'hui lire la parole qui vient de ses lèvres. Je voudrais la lire, cela dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5. Matthieu, le chapitre 5, à partir de versets 47 et 48. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler de la perfection. Cela semble que c'est un texte étrange, n'est-ce pas, quand on le considère, quand on voudrait parler de la crucifixion, pourquoi choisir la perfection? Ici, nous avons déjà écouté les différents messages qui ont déjà été apportés et qui ont déjà traité ce sujet, que notre Seigneur, pour le péché du monde, mourut. Aujourd'hui, je voudrais un peu, de manière différente, m'approcher de ce sujet et vous accorder un rafraîchissement et que le Saint-Esprit puisse accorder l'inspiration. Dieu attend de nous la perfection. S'il vous plaît, retenez-le, ne l'oubliez pas. Ça ne peut pas seulement être une perfection en partie. Dans la présence de Dieu, il faut que ce soit la perfection. Notre adoration et tout ce que nous faisons, notre marche doit être parfaite. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait Adam et Ève et ils péchèrent et ils ont donc transgressé la loi de Dieu. Et ça a été le péché par la désobéissance. Et quand la transgression arrive et que la transgression est justement le péché de transgresser la loi de Dieu, Dieu est saint, Dieu est juste, mais il est seulement saint, il est seulement juste. Il n'y a rien en lui qui ne serait pas saint et rien qui n'est pas saint peut apparaître devant lui. Et chacun de nous est venu dans ce monde par la transgression, dans la transgression. Et c'est pour cette raison que le péché devait être d'abord réglé en lui avant que nous puissions de nouveau pouvoir nous rapprocher de Dieu. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de justice. La loi exige la justice et la justice exige la loi. Et si la loi trouve son emploi, c'est ainsi que la justice se manifeste par nos propres œuvres. Aucun homme pourra être sauvé non plus. La loi ne sauve personne. La loi nous condamne. Et la loi nous apporte en prison et nous condamne. Mais c'est la loi qui nous montre que nous sommes des pécheurs et que nous avons transgressé la parole. Et la loi nous fait faire conscience de la condamnation et de la perdition. Et elle nous montre où est-ce que nous avons péché. Mais la loi en elle ne pouvait pas nous racheter et nous sauver. Elle pouvait que nous condamner et pouvait nous convaincre du péché. Et c'est peut-être raison que Dieu devait faire en sorte que le pécheur soit convaincu du péché. Car il a transgressé la loi de Dieu, il a dépassé les limites. Nous sommes des hommes qui ont brisé la loi de Dieu et c'est pour cette raison que Dieu devait régler cette question car chaque loi a une punition, a une condamnation qui suit quand une transgression de la loi a lieu. Vous voyez? Et la mort vint sur toute l'humanité à cause de la transgression. Et toute l'humanité est pris captive dans cette transgression. Et ensuite, il est écrit que pour le pécheur, il n'y avait plus de possibilité de revenir. Il ne pouvait pas revenir dans la présence de Dieu, car le péché l'avait séparé. Et avec le péché, il devait être jugé et condamné. Aucun homme peut commettre un péché sans considérer comme grand, mais comme petit. Avec ce péché, on doit être condamné. Ça n'a pas d'importance qu'il soit petit ou grand. Celui qui a commis ce péché, il faut que ce péché soit condamné avant qu'il puisse revenir dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison que quand Adam et sa descendance ont péché et ont été livrés dans la mort, c'est pour cette raison qu'il fallait que la loi vienne pour convaincre de péché et toute l'humanité a été livrée à la mort. Bon, s'il vous plaît, soyez attentifs dans les prochaines minutes à ce qui va être dit. Regardez cette grande image qui est faite. Nous voyons que tous nous sommes inclus dans cette chute. Hommes et femmes, enfants, jeunes, nous tous, nous avons transgressé et nous avons péché et nous avons mérité la mort. Et c'est par la transgression que tous nous sommes devenus coupables à cause du péché. Et le péché devait être réglé. Et Dieu n'a pas seulement donné des lois, mais il a donné la loi pour montrer aux pécheurs que il est séparé du donateur de la loi et que seulement une destruction totale l'attend. Et c'est pour cette raison que ça aurait été facile de croire que tout est passé trop tard pour le pécheur, parce que pour toujours, il fut séparé de Dieu et ôté de la présence de Dieu pour toujours. S'il vous plaît, soyez attentifs. Ce péché, et lui, le Dieu, en tant que juste, il ne pouvait rien faire d'autre que, en tant que le juste, il est la source de toute justice, de toute sainteté et de toute pureté. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il devait condamner la transgression. C'était pas possible autrement. Et ça a été la mort, car il est écrit que le jour où vous mangerez, vous mourrez. Bon, c'est une image obscure que nous avons devant nous, mais si ensuite nous continuons à considérer les choses pour constater quels sont les attributs que Dieu a et comment est-ce qu'il les a révélés. Dieu est amour. Et si Dieu est amour, il doit aussi demeurer juste. L'amour signifie pas que nous pouvons comme ça caresser quelqu'un et jouer avec lui, quoi qu'il fasse. Non, l'amour est aussi dans la justice de Dieu contenue. Alors que Dieu voyait que ses enfants avaient transgressé sa loi et qu'ils devaient mourir, alors, sa grâce souveraine a pris tout le contrôle et a préparé un sacrifice, car Dieu voyait que ses enfants ne pouvaient rien faire pour revenir à lui. Rien. Ils n'avaient pas la possibilité de faire quoi que ce soit pour revenir à lui, car ils avaient transgressé sa loi et ils devaient sortir du paradis et être livrés à la mort. Ensuite, c'est ainsi que c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté pour sa créature. Et c'est cette grâce de Dieu souveraine a laissé régner son amour et a à l'avance prédestiné un sacrifice, car auprès de Dieu, tout avait été à l'avance déjà prédestiné. Et Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, avait fait en sorte que des sacrifices devaient être apportés à la place du pécheur, à la place du coupable. C'était un agneau innocent qui ne connaissait aucun péché, qui n'avait aucun défaut, qui devait être apporté à la place du coupable et mourir à la place du coupable. Et c'était cet agneau qui fut immolé et égorgé. Et la vie a été sacrifiée, le sang a coulé. C'est ainsi que dans tout l'Ancien Testament, ils ont apporté des taureaux et des boucs et des agneaux et des sacrifices. C'était toujours à la place du coupable. Mais dans la grande maison de Dieu, il y avait déjà dans les pensées de Dieu, le Fils qui devait mourir pour nous. Dans l'Ancien Testament, nous avons tous ces symboles et ces images. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la réalité manifestée et révélée dans son Fils, seul engendré de lui. Vous voyez, tout cela était que des images dans tout l'Ancien Testament. Mais une image parle de la réalité, annonce la vérité. Une image, donc, une ombre, annonce la réalité. Donc, du sacrifice qui viendrait. Donc, nous voulons aller dans Hébreux pour voir ce que le grand apôtre ici a écrit alors qu'il nous a montré la loi et la grâce. Dans Hébreux, le chapitre 10, nous voulons le lire. J'aime la parole. La parole est la vérité. Et je voudrais, comme consolation, vous le lire. Car le jour du salut, le jour du jugement, je vais devoir rendre compte pour ce que j'ai prêché. Et alors, je voudrais pas être coupable en ce jour-là de ne pas avoir dispensé correctement la parole. Nous voyons ici beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses que les évangélistes s'appellent évangélistes et tout ce qui est fait. Il y a vraiment toutes sortes de choses qui sont une honte. Il y en a qui vont à une église, à une communauté et ensuite là-bas, il y a un pasteur ou bien un dignitaire religieux, spirituel, qui donc donne toutes sortes de choses de lui. Et toute la réunion est simplement donc dans ce rythme du pasteur. Ça n'a pas d'importance qu'il remue sa tête ou bien qu'il c'est sa façon d'être. Toute la réunion semble être sous son influence. Aujourd'hui, il n'y a que des sensations et toutes sortes de choses qui sont partout à voir dans les réunions. Mais mes bien-aimés amis, je vous le dis, s'il y a eu un jour, un temps où nous devons aujourd'hui être attentifs à la parole et être dans la parole et seulement reposer sur la parole, c'est vraiment aujourd'hui plus qu'auparavant. Je ne veux pas le jour du jugement me tenir et savoir que j'ai prêché quelque chose de quelqu'un et qui n'était pas juste, qui n'était pas placé correctement à sa place dans la parole de Dieu. Ça, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous m'imitiez. Je veux que vous puissiez avoir l'esprit du Christ et suivre Christ. Vous voyez? Le sujet sur lequel nous parlons aujourd'hui, je voudrais maintenant lire dans Hébreu. Bon, la loi fut donnée, mais la loi ne pouvait pas couvrir ou bien ne pouvait pas ôter le péché. Comme déjà, je l'ai dit, elle pouvait que nous condamner, elle pouvait que nous rendre captifs, elle nous montrait ce que nous avions fait et comment est-ce que nous avions transgressé et où est-ce que nous avions transgressé. C'est le devoir de la loi. Elle nous a rendus captifs. Mais il fallait une rédemption, un salut pour nous faire sortir de la prison, de la captivité, de la condamnation et de la loi. Maintenant, reconnaissez cela dans Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 1. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Il lit le verset 1. Jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. à la perfection. Donc ces images, ces ombres, ces sacrifices qui avaient été apportés ne pouvaient pas amener les assistants à la perfection. Non, c'était que des ombres, des choses à venir. Mais comme nous l'avons lu, Dieu exige la perfection. Il dit ici, soyez parfaits comme votre Père au ciel est parfait. Et la loi et ces images-là ont eu leur temps et leur signification. Et les sacrifices avaient été apportés et pour couvrir le péché, mais pas pour l'expier et le pardonner. C'était seulement pour le couvrir. Vous voyez, Dieu exige une sainteté parfaite et personne peut apparaître dans sa présence sans avec un péché quelconque. Personne ne peut venir dans sa sainte présence avec un quelconque péché. C'est pas possible. Dieu est saint. Et la Bible dit que la loi, avec tout ce sacrifice, a fait que couvrir le péché. Et la loi ne pouvait pas amener à la perfection. Non. C'était seulement déterminé à convaincre l'homme de sa nature pécheresse. Et tous les sacrifices qui étaient amenés perpétuellement ne pouvaient pas amener à la perfection celui qui les avait apportés. C'était seulement des ombres, des choses à venir. Et ensuite, le deuxième verset de Hébreux 10, deuxième verset. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire pour être parfait et pour revenir dans la présence de Dieu, alors Christ serait venu mourir en vain. Si vous pouviez faire quelque chose pour votre salut, si quelqu'un pouvait faire quelque chose qu'aurait mérité être sauvé et qui pourrait être reconnu par Dieu, ça veut dire que Christ serait mort en vain. Aucune loi qu'on pourrait pratiquer, qu'on pourrait observer. Rien. Pas ta propre sainteté, ta propre sanctification et tout ce que tu as arrêté de faire. Arrêté de mourir, arrêté de mentir, arrêté de voler, arrêté de fumer. Tout ce que tu avais arrêté de faire. Vous êtes toujours encore perdu. Rien peut vous sauver. De devenir membre d'une église ne peut pas le faire. Et l'ordre de l'église ne peut pas vous sauver non plus de réciter les professions de foi et les prières. Rien peut vous sauver et vous amener à la perfection. Vous restez perdu. Pas quelque chose que vous pourriez faire de vous-même. Car vous êtes pécheur et vous êtes condamné. Et personne ne pourrait trouver même ne serait-ce qu'une seule chose qu'il pourrait faire pour être sauvé et revenir dans la présence de Dieu. Non. Rien de vous-même. Non, c'est pas comme ça que vous pourrez venir dans la présence de Dieu. Vous êtes pécheur depuis le commencement, depuis votre naissance. Et la Bible dit que tous nous sommes nés dans le péché. Et ça, je l'ajoute ici, le psaume 51. Oui. Dieu ne pouvait pas permettre ou bien déterminer qu'un homme puisse mourir pour l'autre. Ce n'était pas possible non plus. Dans la présence de Dieu, que ce soit même un archevêque, il est de la même manière coupable comme une prostituée de la rue. D'en haut, du plus grand au plus petit, personne ne pouvait mourir pour un autre. C'est pour cette raison que dans l'Ancien Testament, une vie innocente d'agneau avait été ôtée. Si quelqu'un avait péché, alors Il apportait l'agneau sur l'autel du sacrifice et pensait à sa transgression, à sa faute, à son péché. Et a mis l'agneau sur l'autel et a mis ses mains sur l'agneau et a confessé ses fautes et ses péchés et ses transgressions. Il savait, je suis coupable, mais cet agneau sans défaut est innocent. Et il a mérité la mort, mais l'agneau mourut à sa place. Et quand l'agneau fut égorgé et que le sang coulait et que l'agneau bêlait encore et sautait, bougeait de droite à gauche, la vie sortait de lui. Mais cette vie qui quittait cet agneau ne pouvait pas revenir sur celui qui sacrifiait. Mais l'homme regardait l'agneau mourir, regardait comment est-ce que cet agneau fut immolé à sa place, égorgé pour lui, lui qui avait transgressé, lui, le transgresseur, le pécheur, était conscient de ce qui se passe là, que ce soit qu'il ait commis adultère, que ce soit qu'il ait menti, que ce soit qu'il ait volé, quoi qu'il ait fait, il savait que cet agneau innocent meurt à sa place. Mais c'était seulement les ombres des choses à venir. C'était pas encore la réalité. C'était sa nature. Que cet homme-là, qui avait apporté le sacrifice, l'agneau, était reparti avec le même désir de pécher dans son cœur. Dans son cœur, rien n'a changé. Il a seulement confessé sa transgression, mais le désir de pécher restait dans son cœur. L'agneau mourut à sa place. Bon. Mais dès que l'agneau mourut, même si le sang de cet animal était encore dans les mains de celui qui le sacrifiait, il était reparti avec le sang de l'animal dans ses mains, malgré tout, mais il repartait avec la possibilité d'encore avoir les mêmes désirs de commettre la même transgression. Car la vie qui quittait cet agneau ne pouvait pas revenir sur lui pour le sauver, car nous savons que la vie est dans le sang. Et la vie de l'agneau était une vie animale et ne pouvait pas revenir sur l'homme qui avait sacrifié cet animal, même si la vie de l'animal avait quitté l'animal. Celui qui était venu à l'adoration n'avait rien de cela. Il repartait, c'est vrai, tel qu'il était venu sans être transformé. Mais le sang avait confirmé l'alliance, avait couvert la transgression. Mais l'homme ne pouvait pas être transformé. Vous voyez, c'est ainsi, tel qu'il vint, il est reparti dans sa même nature. Mais pendant qu'il le faisait et qu'il apportait le sacrifice, oh, il regardait en esprit que le sacrifice, que l'agneau de Dieu viendrait. Car il avait été annoncé et il faisait confiance pendant qu'il apportait ce sacrifice. Il regardait en esprit, sachant que dans le futur, l'agneau de Dieu viendrait pour transformer son être intérieur et lui accorder la vie de l'agneau de Dieu, revenir sur le croyant. Car autrefois, c'était la vie d'un animal et aussi la vie d'un homme, celui qui est sacrifié, l'animal qui est sacrifié. Mais ensuite vint le jour. Oh, ce grand jour, alors que l'agneau de Dieu sur la croix à Golgotha mourut. Auparavant, à Bethléem, né à Bethléem. Et ensuite, comme un agneau, il est allé à la boucherie. Vous voyez, là, c'est là que cela s'est passé. Il mourut. Il a donné la dernière goutte de son sang pour nous. Et nous sommes rachetés. Et sa vie est revenue en nous, sur nous. Maintenant, elle est en nous. Et nous venons en tant que ceux qui adorent, dans la foi. Et nous voyons que nous avons été transformés. Personne peut venir à l'agneau de Dieu et accepter la rédemption si ce n'est que Dieu l'attire premièrement. Vous voyez la souveraineté de Dieu en toutes choses. Est-ce que vous voyez? Dieu savait que Il allait apporter des agneaux sur cette terre. Il savait qu'il allait avoir une église sur cette terre. Il savait qu'il allait avoir des hommes sur cette terre qui doivent être sauvés, qui auraient besoin du salut. Et c'est pour cette raison que par sa préscience, il nous a prédestinés en tant qu'église qui se tiendra un jour sans tache, sans ride et irréprochable devant sa face. L'église sera sans tache, irréprochable, irrépréhensible. Elle apparaîtra devant sa face, glorieuse. Vous voyez, sa justice l'a rempli lui-même. Et il est devenu lui-même le sacrifice pour nos péchés. Oh, aucun homme peut de lui-même se sauver et faire quelque chose. Nous sommes des faillisseurs sur toute la ligne. Nous faillissons sur toute la ligne. Et nous pourrons aller dans tout l'Ancien Testament et considérer toutes choses. Tous, tous les prophètes, et encore une fois, tous ont manqué, ont failli. Mais Dieu, dans sa souveraine, dans sa grâce souveraine, a fait en sorte que le sacrifice soit apporté pour nous. Son fils engendré de lui. Aucun pape, aucun évêque, aucun archevêque, personne a pu le faire. Mais, car tous sont coupables. Personne aurait pu le faire. Si, par exemple, il aurait pris un homme quelconque, un grand homme, un archevêque, ou bien, où seraient alors tous les autres restés? Non, il n'aurait pas pu le faire. Qui est-ce qu'il aurait choisi? Non, et cela n'a pas eu lieu non plus. Tous auraient été rejetés comme Judas l'Écarios a été rejeté. Non, tous sont morts et sont nés, pardon, dans le péché. Tous, comme c'est écrit dans le psaume 51 au verset 7. Oh Dieu, je te remercie. Je dis simplement Alléluia. Il vint des portes de la gloire. Personne d'autre, aucun homme, pas un bon homme, que ce soit un juif ou bien un païen, il n'était moins d'autre que le Dieu Tout-Puissant qui est devenu homme à cause de l'homme. Il vint lui-même et a donné son saint sang en sacrifice. Car cela n'est pas venu par des rapports sexuels, ça n'avait rien à voir à faire. Mais Dieu a couvert de son ombre Marie et ce qui devait naître en elle, les cellules du sang dans lesquelles était la vie, c'est Dieu qui les a créées. Vous voyez, et c'est en cela que notre rédemption et notre salut est fondé, que par le sang de l'agneau, nous avons été rachetés. Le sacrifice est accompli. Le Dieu Tout-Puissant l'a accompli ainsi. Certainement. Oh, en moi-même, je ne peux pas être parfait. Et vous ne pouvez pas non plus être parfait. Mais tous, nous avons cette consolation, cette certitude que notre foi est reposée dans le sacrifice parfait, dans la rédemption parfaite. Est-ce que vous voyez comme nous pouvons être reconnaissants? Lui qui vient dans l'adoration, dans la foi. Maintenant, nous appartenons au corps du Christ. Et notre Seigneur a, n'est-ce pas, accompli toutes choses dans le corps de sa chair. Il a porté toutes choses dans le corps de sa chair. Il a été frappé, meurtri. On a craché sur lui. Il alla à la croix. C'était tes fautes, c'était mes fautes, c'était tes et mes transgressions. Tout, c'est lui qui les a portées dans sa chair. Oh, Seigneur, sois loué. Je suis coupable. Mais tu, toi l'innocent, tu as pris mes fautes. Tu mourus à ma place. Je te remercie pour cela. Je te remercie. Et dans la foi, nous avons accepté ce sacrifice. Christ, en tant que notre sauveur personnel, nous l'avons accepté. Ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha pour nous et la vie qui était en Jésus-Christ est revenue sur celui qui adore son Dieu. et la vie de Dieu habite et demeure en lui. Oh, amen. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter et d'avoir peur de quoi que ce soit. Je le reconnais que c'était son œuvre de la rédemption parfaite. C'est en cette œuvre parfaite que notre foi est ancrée. Vous voyez? Vous ne pouvez plus être jugé. Il a déjà été jugé pour vous. La transgression que vous avez commise, sa condamnation, il l'a portée. Et il a frayé le chemin. Il a donné sa vie. Il a porté tout dans sa chair sur le bois. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Comme c'est écrit dans Romains 8 au verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Plus de condamnation. Ça n'a pas d'importance ce qui arrive, ce qui se serait passé et qui se passera encore. Et comment est-ce que nous entrons dans le royaume de Christ, dans le corps de Christ? 1 Corinthiens chapitre 12. Par un esprit qui est sorti du sacrifice par l'esprit de Dieu. Nous sommes donc tous baptisés dans un seul corps. Dans l'Ancien Testament, cela n'était pas possible. Car c'était la vie d'un animal. Et l'autre, c'était un homme qui sacrifiait l'animal. Mais ici, cela pouvait s'accomplir dans le Nouveau Testament, que la même vie qui était dans celui qui a été sacrifié pouvait revenir sur l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, pour toi et pour moi, revenir sur toi et revenir sur moi, son esprit revient sur nous et en nous, le même esprit de Dieu revient sur nous et revient sur tous ceux qui adorent parce que ils sont rachetés par le sang, parce qu'ils ont expérimenté le salut par le sang de l'agneau. Le sang des animaux ne pouvait pas le faire. Nous pourrions encore continuer à lire encore le verset 12 de Hébreux 10, le verset 12, Hébreux 10, verset 12. L'expiation ne pouvait pas être apportée de cette manière. Soyez attentifs. Hébreux 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours, à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Êtes-vous prêt à accepter la parole de Dieu, à croire la parole de Dieu? Alors, nous voulons qu'elle permette la dette implantée profondément en vous. Écoutez bien, au verset 14, car par une seule offrande, en allemand, en anglais, c'est comme en français, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est pas nécessaire que quotidiennement des sacrifices soient apportés, mais par une seule offrande, par un seul sacrifice, il t'a amené à la perfection. Tous ceux qui se laissent sanctifier par lui sont déjà amenés à la perfection. Ici, en anglais, il est écrit aussi amené à la perfection, rendu parfait, ou bien alors amené à la perfection. Ça, c'est la réponse que Dieu nous a accordée. La rédemption est parfaite. Nous avons été parfaitement rachetés par le sang parfait de l'agneau parfait, pour une fois pour toutes, sanctifiés d'une sanctification parfaite et amenés à la perfection par ce seul sacrifice apporté une fois pour toutes que Christ a apporté pour nous. Pour toujours amener dans la présence de Dieu. Oh, parfois, nous vivons sous nos privilèges dans différentes doctrines. Oh, bien, frères et sœurs, s'il vous plaît, acceptez ce que Dieu a fait pour vous. Si par la foi nous avons été justifiés, alors nous sommes sanctifiés, saints Et nous sommes irréprochables devant la place, la face de Dieu. Nous nous tenons là déjà maintenant. Dieu, par la mort de Christ, l'a produit. Et par la grâce de Dieu, nous l'a accordé. Il vous a aussi élu avant même la fondation du monde. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'a justifié, il les a aussi sanctifiés et déjà glorifiés. C'est comme ça que c'est écrit dans Romains 8, au verset 29 et 30. Vous voyez, il nous a amenés à la perfection déjà par son sacrifice. Et encore une fois, au premier verset de Hébreux, chapitre 10, la loi était en effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre particulièrement chaque année, et amener les assistants à la perfection. Mais maintenant, nous avons affaire au parfait, au sacrifice parfait, car autrefois, il ne pouvait pas amener les assistants à la perfection. Hébreux 10, verset 1. Car celui pour qui le sacrifice était apporté repartait avec la même nature et le même désir de péché. Maintenant, ce n'est plus ainsi. Maintenant, nous n'avons plus de désir de commettre les transgressions et de pécher, de transgresser la parole. C'est fini. Cette nature est morte en nous. Et c'est pour cette raison que la parole est en nous. Et nous nous abandonnons entièrement en Dieu et en ce qui s'est accompli pour nous. Et le Saint-Esprit qui est dans le cœur de l'homme, est dans la vie de l'homme et vient dans la vie de l'homme. Et ici, par cela, chaque question est répondue. Car si la loi avait pu nous rendre, nous amener à la perfection, alors la grâce n'aurait plus été nécessaire. Et Christ n'aurait pas eu besoin de venir mourir en tant qu'agneau de Dieu pour nous amener à la perfection. Beaucoup de choses pourraient encore être dites sur la perfection. Souvent, nous trouvons toujours des erreurs dans les autres que nous voulions, n'est-ce pas, corriger. Mais si nous pouvions considérer comment est-ce que nous tenons, dans quel état nous sommes, reconnaître nos propres défauts. Bon, j'ai simplement arrêté ici. Je crois que la prédication aussi s'ajuste au souper du Seigneur. S'ajuste au souper du Seigneur, très bien. C'est un rappel à ce qui s'est accompli pour nous sur la croix à Golgotha réellement. Cela demeure insaisissable pour notre compréhension de ce que Dieu, un pécheur comme nous le sommes tous, a pu simplement justifier. Et il n'impute plus rien, mais pour toujours accepte et nous accorde le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut. Ici, frère Branham dit encore, un peu long, mais il dit que ensuite, il passait la nuit dans un hôtel où il y avait des pécheurs qui étaient assis à la porte. Et il y a une femme qui était assise là et pour raccourcir l'histoire, frère Branham disait, bien-aimée femme, je n'ai pas besoin de ces choses, je suis un prédicateur de l'Évangile. Et je passe ici, et sûrement que Dieu m'a envoyé ici. Et subitement, cette femme dit, qui est assise là, au bar en train de boire, es-tu frère Branham? Et il dit, oui, je le suis. Et vous savez ce qui s'est passé? Là-bas, dans cet hôtel, cette femme a dit, je suis prêt à me mettre à genoux avec toi ici et à consacrer ma vie au Seigneur. Elle est descendue du tabouret de bar et frère Branham s'est mis à genoux avec elle dans le bar. et elle a consacré sa vie au Seigneur. Et frère Branham savait dans son cœur, sans considérer où est-ce que les hommes pourraient se trouver et si bas ils pourraient être dans le péché. Dieu appelle à sortir. Dieu fait grâce. Tous sûrement que nous serions passés, mais Dieu a eu un chemin et cette femme, pour conduire cette femme au salut. Bien, mes frères et sœurs, j'ai écouté cette prédication en revenant du vol de San Paolo. Et j'ai pensé en moi-même, quelle substance merveilleuse est contenue dans cette prédication. Dans cette prédication, comment est-ce qu'elle nous montre clairement que l'homme sans espérance était dans ce monde. Tous les sacrifices, si bons et sans défaut ils étaient, apportés selon la loi, pour couvrir le péché. Mais ensuite vint le grand jour de la réconciliation de Dieu. Le jour de la réconciliation quand Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même. Accepte-le. Accepte simplement. Aussi tous les jeunes, acceptez-le. Acceptez simplement. Dieu était en Christ et nous sommes rachetés. La nouvelle alliance est en vigueur car la mort du testateur est prouvée et notre Seigneur l'a dit dans Matthieu 26, verset 26 jusqu'au verset 28. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Et vous voyez comme nous l'avons souvent dit dans les jours passés que la vie est dans le sang. Cela n'est pas seulement écrit dans Lévitique chapitre 17 au verset 11 et 14. C'est ainsi réellement. Et c'est dans ce sang divin que la vie de Dieu lui-même était la vie éternelle. Dieu lui-même était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et aujourd'hui, nous avons ici là, le souper du Seigneur. C'est un rappel à ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Je voudrais encore là-dessus lire deux, trois versets. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang, ayant obtenu et accompli une rédemption éternelle. Dites Amen.
Amen.
C'est ainsi que c'est. De la part de Dieu, aux yeux de Dieu, tout est vraiment déjà accompli. Et ensuite ici, dans Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20, ainsi donc, frères, nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous pourrions continuer à lire. Et continuer à lire. Ici, il y a des vérités précieuses exprimées par la grâce de Dieu. Que Dieu puisse aujourd'hui, pendant cette réunion, qu'il puisse nous accorder sa grâce, que nous puissions, en tant que rachetés, en tant que réconciliés avec Dieu, en tant que justifiés, nous considérer, car nous le sommes aux yeux de Dieu et dans la présence de Dieu, irréprochable, pas à cause de toi ou bien à cause de moi, mais parce que Christ, l'agneau sans défaut, sur la croix à Golgotha, a donné sa vie, son sang pour nous. Accepte-le dans la foi. Aujourd'hui, nous allons remercier Dieu comme jamais auparavant dans notre vie. Et la rédemption, la pleine rédemption pour nous, entièrement, chacun pour sa part, dans la foi, l'accepter. Et de la désobéissance et de l'incrédulité, entrer dans la foi et l'obéissance. Mais bien aimé, on peut même parler beaucoup du message et du messager. Mais qu'est-ce que c'est que le message? Le message, c'est le message de Jésus-Christ crucifié, le ressuscité. Et bien aimé, frères et sœurs, Dieu nous a accordé beaucoup de grâce avant de lire les paroles d'introduction au souper. Je voudrais, dans Romains chapitre 5, lire ces deux versets merveilleux que nous avons déjà souvent, parfois, considérés. Romains chapitre 5, versets 18 et 19. Et je vous demande, ayez un oui entier à la parole. Ne marchez pas selon vos sensations et selon ce que vous ressentez. Ne croyez pas ce que vous ressentez. Ne regardez pas aux circonstances. Croyez Dieu. Regardez à l'agneau de Dieu. Et comme l'avons souvent entendu, celui qui était coupable mettait ses mains sur la tête de l'agneau, sur l'agneau. Et le sang fut versé. Bien-aimés frères et sœurs, nous chantons, ô toi agneau de Dieu, tu as vaincu glorieusement à Golgotha. Amen, alléluia. Acceptez-le aujourd'hui, profondément dans votre cœur. Et aujourd'hui, nous voulons fêter le repas du Seigneur en mémoire à ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha. La pleine réconciliation, le plein pardon, toutes les fautes sont couvertes, la lettre de condamnation est déchiré, anéanti. Et comme l'avons lu, une fois pour toutes, amené à la perfection. C'est ainsi que nous l'avons lu. Lisons encore ces deux versets dans Romains 5, versets 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Justifié par la foi, à cause de la rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Ensuite, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Les deux sont une réalité. L'une, c'est que la mort par la transgression est venue sur tous. Mais de la même manière, la justification est venue pour nous tous et est là pour nous tous. Nous voulons encore lire dans Corinthiens, le premier chapitre, Je ne sais pas si nous allons encore écouter un cantique ou bien après le souper, nous allons écouter. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. Et lisons ces versets merveilleux. Un Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Ici, nous avons communion de l'esprit, communion avec le Seigneur, communion les uns avec les autres. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous, en tant qu'Église, je me réjouis de ce que nous sommes rassemblés de manière internationale. Dieu a donné à Abraham la promesse déjà lors de la première rencontre dans Genèse 12, ensuite au chapitre 15 et ensuite chapitre 17. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et ensuite, nous ne voulons pas entrer dans les détails de ce sujet, mais dans Galates, Paul l'a exprimé de manière particulière que la bénédiction que Dieu avait promise est venue par Christ Jésus notre Seigneur sur toutes les nations, sur tous ceux qui croient en notre Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons croire. Vous pouvez dire amen à la parole.
Amen.
C'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu se donne des efforts pour nous apporter ces choses et nous représenter devant les yeux. Oui, pour nous l'introduire dans notre cœur. Comme si Dieu aujourd'hui voudrait dire, mon peuple, acceptez cela a eu lieu pour vous. C'est une réalité divine, par le sacrifice, par une seule offrande. Tous ceux qui se laissent sanctifier sont rendus parfaits pour toujours, rendus parfaits. La condamnation est ôtée et la grâce a vaincu le jugement. Et notre Seigneur a ôté la puissance de la mort, est ressuscité le troisième jour et a dit, je vis et vous devez aussi vivre. Aujourd'hui, de tout notre cœur, acceptons cela et remercions Dieu pour cela, de ce que il a pensé à nous, il a pensé à toi, il a pensé à moi et que dans ce temps dans lequel tout s'écroule, il a accordé la clarté devant sa face sur son dessein de salut qu'il a avec nous et aussi sur les promesses et sur le message qui nous a été confié. Bon, nous allons donc nous lever et prier et je demande donc aux frères qui distribue le pain, de venir devant. Et s'il vous plaît, venez devant, frère. Si aujourd'hui vous avez accepté la parole, dites Amen. Amen. Pour que nous puissions savoir que cela est bien arrivé et que vous avez bien compris, entendu, cru. Car c'est ce qui est important. Pas seulement écouter, mais croire et recevoir. Venez, bien-aimés frères, venez. Nous avons besoin des frères pour la brisure du pain, pour rompre le pain et pour la coupe. Alors que Jésus, dans la nuit dans laquelle il fut trahi, prit le pain et remercie Dieu pour cela, et rompit le pain et a dit, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps pour vous. Et je l'ai fait en mémoire. Faites-le en mémoire. Tous soient bénis qui prennent part à ce souper. Chacun est béni. Nous avons été bénis par ta parole que nous avons écoutée. Nous l'avons acceptée et nous croyons ta parole. Nous croyons le pardon parfait accompli. Et maintenant, nous voulons prendre part au souper. Nous te remercions dans ton précieux nom. Amen. Amen. Chantons, oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus. Oui, je l'aime, je l'aime. Soit notre Seigneur. J'ai encore dans le cœur de dire qu'aujourd'hui nous allons prier pour tous ceux qui ont une requête particulière. Quoi que ce soit une requête très particulière, j'étais conduit ainsi aussi d'apporter avec moi de l'huile si c'est nécessaire que nous puissions aussi oindre et prier pour que Dieu puisse, pour les cas très particuliers, confirmer sa parole par sa grâce. Le pain est rompu. Et le Seigneur a dit, et Paul aussi l'a dit, dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, prenez et mangez-en tous. Comme le frère Singh l'a déjà dit dans la prière, soyez bénis. Prenez part au souper en mémoire à ce qui s'est passé pour nous à Golgotha. Que Dieu nous bénisse tous, jeunes et âgés. Amen. Petits et grands. Amen. Père Céleste au ciel, nous te remercions pour ta parole que nous avons écoutée aujourd'hui. Pour ta voix puissante que tu as élevée de ta parole. Tu nous as touchés, tu nous as consolés, tu nous as édifiés. Nous te remercions pour tout ce que tu as accompli pour nous et fait pour nous toujours de nouveau. Nous avons entendu parler du sang. Nous te remercions parce que ton sang a coulé pour le pardon de nos fautes. Je te remercie aujourd'hui de ce que nous pouvons prendre ce repas en mémoire à ce que tu as accompli pour nous sur la croix à Golgotha. Ainsi, nous te remercions de ce que nous pouvons te demander de bénir cette coupe. Bénis tous ceux qui en prennent part. Nous bénis tous si nous agissons dans ta volonté. Nous te remercions pour cela et louons et exaltons ton saint nom dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Remercie aussi, oui.
Amen.
Soyez tous bénis.
des frères qui ont déjà pris les deux, le pain et le vin, puissent remercier le Seigneur.
Ja, Herr. Meine Gedanken gehen zu dir. O Gott.
Denn du bist doch dasselbe.
Ja, Herr.
Du hast mich nicht geändert. Du bist mein Retter.
Amen.
Du bist unser Retter.
Ja, Herr. O Gottes Lamm.
Wir glauben und danken dir.
Ja, Herr.
Ich danke dir ganz besonders für die Erlösung.
Amen.
Wir alle danken dir.
O Gott.
Deine Existenz, dass du noch
o Gott.
Dann sollten wir uns wandeln, wenden,
o
Herr.
O Gott.
Worte des lebendigen Lebens.
Amen.
Ich danke dir, o Gott,
o
für
Gott.
Deine Liebe.
Ja, Herr.
Für deine Treue, o Herr. Für alle Wahrheit, Herr.
Mein Gott.
Für die Gerechtigkeit, wo du uns gibst, o Herr.
Ja, Herr.
Für die Weisheit, für die Offenbarung.
Mein Gott.
Für die Gewissheit, o Herr.
Ja, Herr.
Dass ich überzeugt bin, dass du mir meine Sünde vergeben.
Amen.
O Gott. Herr. Denn du bist ein
Gott.
Allgegenwärtiger Gott.
Halleluja.
Ich danke dir für
Halleluja.
Alle meine Brüder, für alle meine Geschwister.
Ja, Herr.
Du schaffst dich.
O Gott.
Du bist die Einheit deines Geistes.
Amen.
Du bist die Einheit deines Wortes.
Ja, Herr.
Ich danke dir
o
für
Gott.
Solche Offenbarungen.
Halleluja.
Dasselbe, so hat dich nicht
o Gott.
Und dir allein.
Ja, Herr. Mein Gott.
Möge dieses Dankgebet.
O Gott. O Gott.
Amen. Und mögest du alle, die da glauben,
o Gott.
Auf das Blut geflossen, die ich
mein Gott.
Für einen jeden. O Herr.
Mein Gott.
Ich danke dir, o Herr. Für solche Offenbarungen.
Mein Gott.
Für alle meine Brüder und besonders mein
Sohn
und alle Brüder, die deine heilige Botschaft
ja.
verkünden.
Ja.
Sei du mit uns, O Herr.
Bitte.
Sei
uns bitte.
Uns alle ein Herz hinein.
Ja, mein Gott.
O bitte, O Herr.
O Gott. O Gott. O Gott. Mein Gott. Ja, Herr. Halleluja. Halleluja.
Amen.
O Gott.
O mein Gott, bist du groß.
Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich erlöst.
Ja, Herr.
Halleluja.
Amen.
Halleluja.
O Gott.
Halleluja. Halleluja.
O Gott.
Lobe den Herrn.
O Gott. Ja. Halleluja. O Gott. Ja.
Halleluja.
Mein Gott.
Halleluja.
O Gott.
Oh.
Halleluja. Amen.
Himmlischer Vater, ich danke dir auch.
Oh Gott. Ja, Herr.
Halleluja, Halleluja.
Oh Gott.
Was ist deine große Liebe?
Oh Gott. Ja, mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Herr. Oh Gott. Mein Gott. Oh Herr. Mein Gott.
Oh, Halleluja.
Amen.
Halleluja. Danke.
Oh Herr.
Halleluja.
Wir geben Halleluja. Dir, oh Jesus, lasst uns gemeinsam singen.
Wir danken dir.
Ça, nous pouvons dans la certitude de la foi le dire, bien-aimés frères et sœurs. Nous voulons aujourd'hui, dans la foi, accepter ce qui nous a été dit par la prédication de la parole. Un sacrifice qui fut apporté une fois pour toutes, nous amène à la perfection. Ne regarde plus à toi, à tes manquements. Lisez Romains 7. Retrouve-toi dans Romains 7. Et lis ensuite Romains 8. Et retrouve-toi aussi dans Romains 8. Et ensuite, tout est en ordre. Et nous pouvons, dans la foi, aller de l'avant. Paul, dans Romains 7, a aussi prié, « Qui me délivrera de ce corps de mort, moi, homme misérable ?» Ça aussi, tu peux le dire. Ça, je peux le dire. Et après, suis le témoignage. Loué soit Dieu, c'est accompli. C'est accompli par Jésus-Christ, notre Seigneur. Un don de Dieu. Un don de Dieu. Avant que nous puissions maintenant prier, je voudrais demander, est-ce qu'il y aurait des requêtes très particulière que vous vouliez dans la foi recevoir de Dieu comme étant en vous accompli. Et que Dieu puisse... Vous voulez confesser que vous avez reçu de Dieu ce que vous lui avez demandé dans la foi. Pendant que nous courbons les têtes et fermons les yeux, que tous ceux qui ont une requête particulière puissent lever les mains. Prions. Prions, Seigneur fidèle, toi Dieu éternel, dans chaque réunion dans laquelle tu étais présent, des pécheurs ont expérimenté le pardon de leurs péchés, des malades furent guéris, des liés furent délivrés. Aujourd'hui, que parmi nous cela ait lieu, que des pécheurs soient sauvés, des malades soient guéris et des liés soient délivrés par la puissance du sang et de la parole et de l'Esprit de Dieu. Que cela ait lieu par la grâce. Nous l'acceptons dans la foi et nous te remercions. Ton sacrifice a été accompli et est parfait une fois pour toutes. Et nous pouvons appartenir à l'Église des nouveaux-nés que toi-même, devant ta sainte face, sans tache, sans ride et irréprochable, tu placeras, tu présenteras, lavé dans le sang de l'agneau, sanctifié dans la parole de la vérité, scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de notre corps. À toi, le Dieu Tout-Puissant, toi qui étais et qui seras, oui, d'éternité en éternité, tu es, ô Dieu, Dieu. Tu t'es révélé à l'humanité en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous te remercions pour cela, pour la réconciliation, pour le pardon, pour la grâce et pour le salut. Tu as fait d'enfants d'hommes des enfants de Dieu. Et nous voulons ensemble t'apporter notre reconnaissance. À toi, l'agneau de Dieu, sois de tout notre cœur remercié. Je te remercie aussi pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs. Nous te demandons aussi maintenant pour tous ceux qui sont en direct. Je pense aujourd'hui particulièrement à nos amis de la Suisse, en Colombie-Britannique, bénis-les d'une manière particulière. Sois avec eux, bénis à Edmonton, bénis toutes les 10 provinces jusqu'à Gander et Nordwendland. Bénis aux États-Unis, tous ceux qui écoutent, bénis partout où aujourd'hui il est écouté en direct. Et que tous puissent croire comme le dit les Écritures. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions aussi ensemble pour le ministère de Frère Branham, pour la parole révélée, pour l'enseignement, pour l'introduction dans ton salut éternel, dans ton dessein éternel que plein de grâce, tu nous as révélé. Nous te remercions aussi de ce que cette année, nous pouvons l'achever avec un cœur rempli de reconnaissance pour toutes les âmes que tu as sauvées, pour tous ceux que tu as conduits à la connaissance de la vérité, pour tout ce que tu as fait dans le monde entier. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour cette année, pour ce jour, et te demandons, bénis-nous, sois avec nous tous, dans le saint nom de Jésus. Amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir, nous allons encore écouter un cantique et chanter un cantique. Aujourd'hui, je voudrais le proposer, cantique 18. Seigneur, nous louons ta grâce. Mais avant que nous puissions commencer avec ce cantique, je voudrais donner l'occasion, une fois par... Attendez encore une fois, bien-aimés frères, avec l'offrande, je voudrais simplement, une fois par an, saisir l'occasion pour vous remercier de tout mon cœur. Remercier pour toutes les prières, remercier pour tout ce qui se fait ici, et particulièrement remercier aussi de ce que vous avez une si grande part de ce que vous prenez part à tout ce qui concerne les frères du centre missionnaire. Je sais, sœur Kupfer et frère Kupfer vont le comprendre, ils viennent de l'Alsace. Mais depuis le commencement, les trois pays parlant l'allemand, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, ont porté les frais pour tous les frais qui devaient être couverts pour l'œuvre dans le monde entier. Je vous dis aujourd'hui que plusieurs années sont passées où nous avions besoin de 900 000 euros et des années sont passées où nous avions même besoin de millions d'euros. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que le centre, l'œuvre missionnaire, réellement dans le monde entier, s'est propagé par l'aide de Dieu et la grâce de Dieu. Nous avons 72 stations dans les différents pays où des frères et soutiennent l'œuvre missionnaire et tout ce qui est fait à Krefeld, particulièrement avec la propagation du message divin, tout ce qui est lié à cela. Tout cela est toujours, a toujours été couvert. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur et de toute notre âme. Jamais j'ai demandé une offrande, jamais j'ai présenté une requête. Je voudrais seulement, avec un cœur reconnaissant, l'exprimer que Dieu, depuis le commencement déjà, m'a pris ce fardeau. C'était mon contrat, mon vœu avec le Seigneur, en mai 1966, alors que je revenais de l'ensevelissement de frère Branham et que je savais que maintenant le message devait être porté dans le monde entier. Sous ces trois vœux que j'ai exprimés au Seigneur, il y avait l'un d'eux où j'ai dit, « Bien-aimé Seigneur, prends-toi même soin de ton œuvre. Je ne vais jamais mentionner l'argent. » Et ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais eu besoin de le faire. Et Dieu a toujours pris soin pour tout. Tel que c'était nécessaire, c'est ainsi que c'est venu. Dieu conduit parfois certains qui ont un peu plus que les hommes en général, Nous sommes reconnaissants. Simplement reconnaissants pour être dit rapidement, je crois que vous allez devoir me donner raison. Une telle œuvre n'existe probablement pas sur Terre encore une deuxième fois. Partout, c'est seulement l'argent qui est la première chose. Partout, de grands programmes pour lesquels ils doivent rassembler beaucoup d'argent. Mais Dieu, dans la simplicité, depuis le commencement, a béni. Et vous avez remarqué, et vous pouvez regarder tout à l'heure 4 photos du Brésil. Oui. Depuis le commencement, nous avons fait ce que nous pouvions faire, aider où c'était nécessaire. Et Dieu a réellement accordé sa bénédiction par sa grâce. Vous, les Suisses, vous, de la France et partout d'où vous pourriez venir, de l'Allemagne République, que Dieu le Seigneur vous bénisse, car vous portez l'œuvre de Dieu avec vos prières et vos offrandes. Que Dieu bénisse encore aujourd'hui chacun de nous. Nous voulons maintenant chanter le cantique 18. Seigneur, nous louons ta grâce qui nous a entièrement consacrés pour toi. Entièrement consacrés pour toi. Entièrement consacrés pour Jésus. Seigneur, nous louons ta grâce qui nous a entièrement consacrés pour toi, à toi, sauvé, sanctifié et rempli et rendu utile pour toi, n'être qu'un vase, ô Saint Maître, mais rempli de ta puissance.
Jesus, bring me thine grace, give us strength.
nous allons sûrement encore maintenant prier et aussi remercier Dieu pour le repas d'amour. Et nous allons écouter encore une fois un cantique avant que nous puissions maintenant avoir le repas d'amour. Alors je voudrais aussi demander au frère Kupfer de venir devant. Frère Kupfer vient aujourd'hui devant. Nous t'aimons, nous t'estimons. Viens une fois devant. Et ça, je le dis maintenant dans l'amour. Et à vous aussi, mes bien-aimés amis suisses, bien-aimés frères et sœurs, notre frère Kupfer vient depuis 26, depuis 36 ans. Le temps passe vite. Il ne veut sûrement pas que je le dise, mais frère Kupfer et la sœur Kupfer, tous les premiers week-ends du mois sont à Krefeld et premier dernier week-end du mois sont à Zurich. Et parmi nous, il n'y a pas un deuxième qui pourrait se lever et dire que nous aussi, je l'ai aussi fait ainsi. Bien-aimé frère Kupfer, je t'estime pas seulement comme un frère, je t'estime comme un ami. Mais parfois, il dit, maintenant, il est arrivé dans l'âge où on ne peut plus renverser le nombre 8 reste 8. Sinon, il disait quand il avait 81 ans, qu'il avait 18 ans, 24 ans, 28 ans. Mais maintenant, on peut changer les 8 comme on veut, ça reste toujours 8. Et la prochaine année, en mai, quand il aura 88 ans, alors, il n'y aura même plus de changement. Alors, ce seront deux huit, l'un à côté de l'autre. Il ne pourra plus dire qu'il a 78 ans, bien. On pourra les changer comme on veut. Ici, un autre frère Kupfer. Un homme qui, déjà avec moi, a voyagé alors que l'Allemagne était encore divisée, alors que Berlin était encore divisée. Avec moi, il était en voyage. Frère Kupfer, nous t'estimons tous et nous t'aimons tous. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse aussi tous nos amis suisses. Hein? Alors, la direction est que Dieu vous bénisse tous. Priez pour nous tous les jours sûrement pour que la parole du Seigneur voyage et soit propagée et que les extrémités de la terre soient atteintes. Oui. Oui, je vais être court. Frère, ces compliments-là, je ne l'ai pas mérité. Mais je dois dire, c'est vrai. Il nous l'aime tous, mais nous l'aimons aussi tous. Hein, mais nous l'aimons aussi le Seigneur. Ouais. Et nous ne faisons pas de compromis. Nous sommes, comme l'avons entendu et prié depuis, sa parole, on ne peut pas la remplacer. Et c'est seulement si elle nous est révélée qu'elle a son sens et atteint son objectif. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Un pour les autres, il n'y a pas d'exception de personne. Il nous aime et nous aimons sa parole et nous pensons aussi à lui dans la prière. C'est vrai, c'était une bonne exhortation. Elle ne vient pas du frère. Nous tous, à droite, à gauche, derrière et devant, nous avons tous des témoignages. Et si nous voulions commencer, nous ne pourrions pas finir jusqu'à demain. Mais le Seigneur sait, parce qu'il sait toutes choses. Ce n'est pas un hasard, c'est une vérité. Il a dit depuis 26 ans. Mais si ce n'était pas la conduite du Seigneur, qu'est-ce que nous aurions fait? Mais que le Seigneur puisse nous bénir tous et que nous puissions nous prier les uns pour les autres et apporter l'honneur et la louange au Seigneur de tout notre cœur et l'honorer. Et c'est ce qu'il veut et c'est ce que nous faisons comme nous le pouvons, que nous accorde et qu'il m'accorde à toi et à nous un cœur comme le sien. Alors nous serons aidés. Alléluia. Amen, amen. Nous demandons maintenant à la chorale de venir devant. Oui, nous voulons nous lever et prier. Et ensuite, la chorale va chanter. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions pour tout le bien, aussi pour la prédication puissante de Frère Branham. Nous te remercions de ce que nous avons reconnu, que nous étions perdus et que nous ne pouvions rien faire. Mais, ô Seigneur, toi, tu as fait toutes choses. Ton sacrifice était si parfait, et il nous a apporté, nous a mené à la perfection. Nous te remercions pour le salut, la rédemption par le sang. Nous louons ton merveilleux nom, comme notre frère vient de le mentionner et d'insister là-dessus. Si ta parole nous est révélée, alors c'est là que le Seigneur parle avec nous directement. Alors ce qui est écrit devient une parole révélée, une parole vivante. Et c'est devenu ainsi. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Seigneur, que la bénédiction que tu as ordonnée par Aaron sur le peuple d'Israël vienne sur nous. Lève ta face sur nous. Accorde-nous ta paix et ta bénédiction dans le saint nom de Jésus. Bénis aussi les aliments et les boissons, la nourriture. Et bénis la communion que nous allons avoir les uns avec les autres. Qu'elle soit sincère et chaleureuse, ô Seigneur. Nous sommes liés avec toi et liés les uns avec les autres. Encore une fois, je te dis, toi le Dieu éternel, qui nous a déterminés à, dans ce temps, entendre ta parole et la porter dans sa forme cristal pure. Toi le Dieu éternel, nous te disons merci pour ce que tu as fait dans ces années passées, dans le monde entier, par ta grâce. Et nous pouvons rendre témoignage que ta parole n'est pas revenue vide, sans effet, mais qu'elle a produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Encore une fois, je te demande, bénis la communion, bénis les aliments et les boissons, bénis la chorale, bénis tous ce soir avec nous tous. L'adoration et l'honneur te soient apportés à ton merveilleux nom. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, la chorale est maintenant devant.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, während die Sänger nach vorne kommen, möchte ich noch zwei, drei Dinge sagen. Nach dem Lied bitte ich euch alle, eure Stühle zu nehmen und auf dieser Seite aufzustapeln, damit wir genügend Platz haben. Denkt aber daran, dass ihr alles vom Stuhl wegnehmt, also keine Liederbücher, keine privaten Sachen. Das letzte Mal war es so, zwischen den Stühlen fand man dann noch Gegenstände, und das soll nicht sein. Das Zweite, was ich als Wunsch von unseren Schwestern, die das organisiert haben und die das betreuen, weitergeben möchte, ist das: Wenn ihr etwas geholt habt, wenn ihr etwas in den Händen habt, dann geht doch bitte ein bisschen vom Tisch zurück, damit andere, die noch nichts haben, auch zum Tisch kommen und etwas nehmen können. Also bleibt nicht beim Tisch stehen, damit andere dann nicht mehr dazukommen. Und so werden wir aneinander vorbeikommen. Ich wünsche euch jetzt auch in dieser Art des Liebesmahles Gottes Segen, viel Gemeinschaft und seinen Frieden und viel Freude beim Zuhören des Liedes. Danke.
Liebe Geschwister im Herrn, wir möchten nochmals das Lied Dank sei dir singen. Und wir singen dieses Lied wirklich von Herzen. Und dazu möchte ich euch bitten, aufzustehen. Der Herr sei mit euch.